Les chocs subis par le capital au XXe siècle. L'évolution générale du rapport capital-revenu et du partage public-privé sur longue période étant maintenant posée, il nous faut à présent reprendre le fil de la chronologie et en particulier comprendre les raisons de l'effondrement puis de la spectaculaire remontée du rapport capital-revenu au cours du XXe siècle. Précisons tout d'abord qu'il s'agit d'un phénomène qui concerne l'ensemble des pays européens. Toutes les sources dont nous disposons indiquent que les évolutions observées au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, qui à eux trois représentent en 1910 comme en 2010 plus des deux tiers du PIB ouest européen et plus de la moitié du PIB européen, sont représentatives de l'ensemble du continent, avec certes d'intéressantes variations entre pays, mais avec un même schéma général. En particulier, on observe en Italie et en Espagne une très forte remontée du rapport capital-revenu depuis 1970, encore plus marquée qu'au Royaume-Uni et en France, et les données historiques disponibles suggèrent que le rapport capital-revenu était à la belle époque de l'ordre de 6-7 années de revenu national. Les estimations disponibles pour la Belgique, la Hollande, l'Autriche vont dans le même sens. Il faut ensuite insister sur le fait que la chute observée au cours de la période 1914-1945 ne s'explique que très partiellement par les destructions physiques de capital, immeubles, usines, équipements, etc., entraînées par les guerres. Au Royaume-Uni comme en France et en Allemagne, la valeur du capital national était comprise entre 6 années et demie et 7 années de revenu national en 1913, et est passé à environ 2 années et demie de revenu national en 1950, soit une chute spectaculaire de plus de 4 années de revenu national. Voir graphique 4.4, 4.5. Les destructions physiques de capital ont certes été substantielles, en particulier en France pendant la Première Guerre mondiale. Les zones de front dans le nord-est du pays ont été durement éprouvées. Et en France comme en Allemagne, pendant la Seconde Guerre mondiale, à l'occasion des bombardements massifs de 1944-1945. Les combats ont été plus courts qu'en 1914-1918, mais la technologie était autrement plus destructrice. Au total, les destructions cumulées sont évaluées à près d'une année de revenu national en France, soit entre un cinquième et un quart de la baisse totale du rapport capital-revenu, et une année et demie en Allemagne, soit environ un tiers de la baisse totale. Bien que très significatives, les destructions n'expliquent donc qu'une part nettement minoritaire de la chute, y compris dans les deux pays les plus directement touchés par les conflits. Au Royaume-Uni, les destructions physiques ont été par comparaison plus limitées, nulles pendant la Première Guerre mondiale et moins de 10% du revenu national du fait des bombardements allemands pendant le Second Conflit mondial, et cela n'a pas empêché le capital national de chuter de 4 années de revenu national, plus de 40 fois les destructions physiques, autant qu'en France et en Allemagne. En vérité, les chocs budgétaires et politiques, entraînés par les guerres, ont eu un effet encore plus destructeur pour le capital que les combats eux-mêmes. En dehors des destructions physiques, les principaux facteurs expliquant la chute vertigineuse du rapport capital-revenu entre 1913 et 1950 sont, d'une part, l'effondrement des portefeuilles étrangers et la très faible épargne caractérisant la période. Ajouté aux destructions, ces deux facteurs cumulés expliquent entre les 2/3 et les 3/4 de la baisse. Et d'autre part, les faibles niveaux des prix des actifs en vigueur dans le nouveau contexte politique de propriété mixte et régulée de l'après-guerre. Entre 1/4 et 1/3 de la baisse. Nous avons déjà évoqué plus haut l'importance des pertes d'actifs étrangers, notamment au Royaume-Uni, où le capital étranger net est passé de près de 2 années de revenu national à la veille de la Première Guerre mondiale à une position légèrement négative dans les années 1950. La perte subie sur les portefeuilles internationaux du Royaume-Uni a donc été sensiblement plus forte que les destructions physiques de capital intérieur français ou allemand, et a plus que compensé la faiblesse des destructions sur le sol britannique. La chute des capitaux étrangers s'explique d'une part par les expropriations entraînées par des révolutions et des processus de décolonisation. On pense par exemple aux emprunts russes, abondamment souscrits par les épargnants français de la Belle Époque et répudiés en 1917 par les bolcheviks, et à la nationalisation du canal de Suez par Nasser en 1956, au grand dam des actionnaires britanniques et français qui possédaient le canal et en touchaient les dividendes et royalties depuis 1869. Et d'autre part, et surtout, par la très faible épargne nationale en vigueur dans les différents pays européens entre 1914 et 1945, qui a conduit les épargnants britanniques et français, et à un degré moindre allemand, à se défaire progressivement de leurs actifs étrangers. Compte tenu de la faible croissance et des récessions à répétition, les années 1914-1945 sont une période noire pour tous les Européens et en particulier pour les détenteurs de patrimoine, dont les revenus sont beaucoup moins florissants que pendant la Belle Époque. Les taux d'épargne privée sont donc relativement faibles, surtout si on déduit les réparations et remplacements des dommages de guerre. Et pour maintenir leur niveau de vie, certains choisissent de vendre progressivement une partie de leurs actifs. Les faillites de la crise des années 1930 ruinent également de nombreux actionnaires et porteurs d'obligations. Le peu d'épargne privée est en outre largement absorbé par les énormes déficits publics, notamment pendant les guerres. L'épargne nationale, somme de l'épargne privée et de l'épargne publique, est extrêmement faible au Royaume-Uni comme en France et en Allemagne entre 1914 et 1945. Les épargnants prêtent massivement à leur gouvernement, parfois en vendant leurs actifs étrangers, et seront finalement expropriés par l'inflation, très vite en France et en Allemagne, et plus lentement au Royaume-Uni, ce qui donne l'illusion au patrimoine privé britannique de mieux se porter en 1950 que leurs équivalents continentaux. En vérité, le patrimoine national est tout aussi affecté dans les deux cas. Voir graphique 4.4-4.5. Parfois, les gouvernements empruntent directement à l'étranger. C'est ainsi que les États-Unis passeront d'une position négative à la veille de la Première Guerre mondiale à une position positive dans les années 1950. Pour ce qui concerne le patrimoine national du Royaume-Uni ou de la France, cela revient au même. La différence avec l'époque de Ricardo est que les possédants britanniques de 1800-1810 étaient assez prospères pour générer l'épargne privée supplémentaire permettant d'absorber les déficits publics sans affecter le capital national. Les déficits européens des années 1914-1945 interviennent au contraire dans un contexte où les patrimoines et l'épargne privée sont déjà fortement affectés par de multiples chocs négatifs, si bien que l'endettement public aggrave la chute du capital national. Au final, la chute du rapport capital-revenu entre 1913 et 1950 est l'histoire du suicide de l'Europe et singulièrement de l'euthanasie des capitalistes européens. Cette histoire politique, militaire et budgétaire serait cependant fort incomplète si l'on n'insistait pas sur le fait que le faible niveau du rapport capital-revenu dans l'après-guerre européen est en partie un choix positif, dans le sens où cette réalité reflète pour une part le choix de politique publique visant à réduire, plus ou moins consciemment et avec plus ou moins d'efficacité, la valeur de marché des actifs et le pouvoir économique de leurs détenteurs. Concrètement, les prix de l'immobilier comme des entreprises se situent à des niveaux historiquement bas dans les années 1950-1960, relativement aux prix des biens et services. Et cela explique en partie les faibles niveaux du rapport capital-revenu. Rappelons en effet que toutes les formes de patrimoine sont toujours évaluées au prix de marchés en vigueur aux différentes époques. Cela introduit une part d'arbitraire, les marchés sont souvent capricieux, mais c'est la seule méthode dont nous disposons pour calculer le stock de capital national. Comment faire sinon pour additionner les hectares de terres agricoles avec les mètres carrés d'immeubles et de hauts fourneaux? Or, dans l'après-guerre, les prix des logements sont historiquement faibles, du fait notamment des politiques de blocage des loyers qui ont été mises en place presque partout pendant les périodes d'inflation forte au début des années 1920 et plus encore dans les années 1940. Les loyers ont moins fortement progressé que les autres prix. Il est devenu moins coûteux de se loger pour les locataires, et inversement, les logements rapportent moins à leurs propriétaires, si bien que les prix immobiliers ont baissé. De même, les prix des entreprises, c'est-à-dire la valeur des actions et des parts des sociétés cotées et non cotées, se situent à des niveaux relativement bas dans les années 1950-1960. Outre que la confiance dans les marchés boursiers a été fortement ébranlée par la crise des années 30 et par les nationalisations de l'après-guerre, de nouvelles politiques de régulation financière et de taxation des bénéfices et des dividendes ont été mises en place, qui contribuent à réduire le pouvoir des actionnaires et la valeur de leurs actifs. Les estimations détaillées que nous avons réalisées pour le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne démontrent que ce faible niveau des prix des actifs immobiliers et boursiers de l'après-guerre explique une part non négligeable, quoique minoritaire, de la chute du rapport capital national-revenu national entre 1913 et 1950, entre un quart et un tiers de la baisse suivant les pays, alors que les effets de volume, faible épargne nationale, perte d'actifs étrangers, destruction, représentent entre deux tiers et trois quarts de la chute. De même, nous verrons dans le prochain chapitre que la très forte remontée des prix immobiliers et boursiers depuis les années 1970-1980, notamment dans les années 1990-2000, explique une part significative de la remontée du rapport capital-revenu, quoique là encore moins importante que les effets de volume liés cette fois à l'abaissement structurel du taux de croissance. Le capital en Amérique, plus stable qu'en Europe. Avant d'étudier plus précisément la phase de remontée du rapport capital-revenu dans la seconde moitié du XXe siècle et d'analyser les perspectives pour le XXIe, ce que nous ferons dans le prochain chapitre, il est grand temps de dépasser le cadre européen et d'examiner maintenant les formes et les niveaux pris dans l'histoire par le capital en Amérique. Plusieurs faits se détachent clairement. Tout d'abord, l'Amérique apparaît comme le nouveau monde où le capital compte moins que dans l'ancien monde, à savoir la vieille Europe. Plus précisément, la valeur du stock de capital national, d'après les multiples estimations réalisées à l'époque que nous avons rassemblées et confrontées les unes aux autres, comme pour les autres pays, est d'à peine plus de trois années de revenu national au moment de l'indépendance américaine, vers 1770-1810. La valeur des terres agricoles est comprise entre une année et une année et demie de revenu national. Voir graphique 4.6. Quelles que soient les incertitudes, il ne fait aucun doute que le ratio capital-revenu est alors beaucoup plus faible dans les colonies américaines qu'au Royaume-Uni, et que dans le Royaume de France, où le capital national vaut de l'ordre de 7 années de revenu national, dont près de 4 pour les terres agricoles. Voir graphique 3.1-3.2. Le point essentiel est que l'Amérique du Nord compte évidemment beaucoup plus d'hectares de terre par habitant que la vieille Europe. En volume, elle compte donc beaucoup plus de capital par habitant. Mais précisément, elle en compte tellement que la valeur marchande des terres est réduite à des niveaux très faibles. Chacun peut posséder d'énormes quantités de terre, et donc la terre ne vaut pas grand-chose. Autrement dit, l'effet prix fait plus que contrebalancer l'effet volume. Dès lors que le volume de capital d'un type donné dépasse certains seuils, il est inévitable que son prix tombe à des niveaux tellement bas que le produit des deux, c'est-à-dire la valeur du capital, est plus faible que pour un volume plus modéré. L'écart considérable entre le prix de la terre dans le Nouveau Monde et en Europe à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle est d'ailleurs confirmé par toutes les sources historiques disponibles sur les transactions ou les transmissions de terres agricoles, par exemple les inventaires de biens au décès et les actes de succession. Le fait que les autres types de capitaux, logements et autres capitaux intérieurs, se situent également à des niveaux relativement bas aux États-Unis à l'époque coloniale et lors de la naissance de la République américaine, relève d'une autre logique, mais n'est pas plus surprenant. Les nouveaux arrivants, qui représentent une très forte part de la population américaine, n'ont pas traversé l'Atlantique avec leur capital logement ou leurs machines, et il faut du temps pour accumuler l'équivalent de plusieurs années de revenu national en biens immobiliers et en équipement professionnel. Que l'on ne s'y trompe pas, la faiblesse du rapport capital-revenu en Amérique traduit une différence fondamentale dans la structure des inégalités sociales par rapport à l'Europe. Le fait que la totalité des patrimoines ne représente qu'à peine trois années de revenu national en Amérique contre plus de sept en Europe signifie très concrètement que le poids des propriétaires et des positions acquises dans le passé est moins important au Nouveau Monde. Il est possible, avec quelques années de travail et production, de combler les écarts initiaux de patrimoine entre groupes sociaux, ou tout du moins, il est possible de les combler plus vite qu'en Europe. En 1840, Tocqueville note très justement que le nombre des grandes fortunes est fort petit aux États-Unis et les capitaux encore rares. Et y voit l'une des origines les plus évidentes de l'esprit démocratique qui, selon lui, règne en Amérique. Il ajoute que tout découle, d'après ses observations, du faible prix des terres agricoles. En Amérique, la terre coûte peu et chacun peut devenir propriétaire, écrit Alexis de Tocqueville dans « De la démocratie en Amérique ». C'est l'idéal jeffersonien d'une société de petits propriétaires terriens, libres et égaux. Au cours du XIXe siècle, cette situation va évoluer. La part de l'agriculture dans la production diminue progressivement et la valeur des terres agricoles devient de plus en plus faible, comme en Europe. Mais les États-Unis accumulent un stock considérable de capital immobilier et industriel, si bien que le capital national avoisine 5 années de revenu national en 1910 contre 3 années en 1810. L'écart avec la vieille Europe est toujours là, mais il s'est considérablement réduit. Il a été divisé par 2 en un siècle. Voir graphique 4.6. L'Amérique est devenue capitaliste, mais le patrimoine continue de peser moins lourdement aux États-Unis que dans l'Europe de la Belle Époque, tout du moins si l'on considère l'immense territoire américain dans son ensemble. Si l'on se restreint à la côte Est, on trouve un écart plus réduit encore. Dans son film Titanic, le réalisateur James Cameron met en scène la structure sociale de 1912. Il choisit de montrer des possédants américains dont la prospérité et aussi l'arrogance et le mépris de classe semblent avoir rattrapé celle des propriétaires européens, à l'image du détestable personnage de Hockley, qui entend ramener la jeune Rose à Philadelphie pour l'épouser. Héroïque, elle refusera d'être traitée comme une propriété et deviendra Rose Dawson. Les romans de Henry James, qui se déroulent dans le Boston et le New York des années 1880-1910, montrent également des sociétés où le patrimoine immobilier, industriel et financier compte presque autant que dans les romans européens. Les temps ont bien changé depuis l'Amérique sans capital de l'époque de l'indépendance. Les chocs du XXe siècle atteignent l'Amérique beaucoup moins violemment que l'Europe, si bien que le rapport entre capital national et revenu national apparaît beaucoup plus stable aux États-Unis. Il a oscillé entre 4 et 5 années de 1910 à 2010, alors qu'en Europe, il est passé de plus de 7 années à moins de 3, avant de remonter à 5-6. Certes, les patrimoines américains subissent eux aussi les contre-coups des crises des années 1914-1945. L'endettement public progresse fortement aux États-Unis du fait des guerres, notamment au cours de la Seconde Guerre mondiale, ce qui affecte l'épargne nationale, tout cela dans un contexte économique instable. À l'euphorie des années 1920 succède la crise des années 1930. D'après Cameron, l'odieux Hockley se suicide dès le mois d'octobre 1929. En outre, les États-Unis mettent en place sous Roosevelt le même type de politique publique qu'en Europe pour réduire le poids du capital privé, comme la régulation des loyers. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, la capitalisation immobilière comme la capitalisation boursière se retrouve à des niveaux historiquement bas. Sur la fiscalité progressive, les États-Unis vont même beaucoup plus loin que l'Europe, preuve sans doute que leur souci est davantage de réduire les inégalités que d'éradiquer la propriété privée. Nous y reviendrons. Aucune politique massive de nationalisation n'est mise en place. Des investissements publics importants sont toutefois lancés à partir des années 1930-1940, notamment dans les infrastructures. L'inflation et la croissance finissent par ramener la dette publique à un niveau modeste dans les années 1950-1960, si bien que le patrimoine public est nettement positif en 1970. Voir graphique 4.7. Au final, les patrimoines privés américains sont passés de près de 5 années de revenu national en 1930 à moins de 3 années et demie en 1970, ce qui constitue tout de même une baisse non négligeable. Voir graphique 4 1.8. Il reste que la courbe en U, suivie par le rapport capital-revenu au XXe siècle, est d'une ampleur nettement moins marquée aux États-Unis qu'en Europe. Exprimé en années de revenus ou de production, le capital semble avoir atteint une quasi-stabilité en Amérique depuis le début du XXe siècle, à tel point d'ailleurs que la stabilité du rapport capital-revenu ou capital-production est parfois considérée comme une loi universelle dans les manuels américains, comme celui de Samuelson. En comparaison, l'Europe a connu une relation spectaculairement chaotique avec le capital, et en particulier avec le capital privé au cours du siècle écoulé. Elle est passée d'un monde de la Belle Époque, où le patrimoine était roi, à un monde de l'après-guerre, où l'on s'imaginait presque avoir éradiqué le capitalisme, puis à un début de XXIe siècle, où l'Europe semble se trouver à l'avant-garde du nouveau capitalisme patrimonial, avec des patrimoines privés qui ont de nouveau dépassé les niveaux américains. Nous verrons dans le prochain chapitre que cela s'explique assez bien par la plus faible croissance économique et surtout démographique qui caractérise l'Europe par rapport aux États-Unis et qui conduit mécaniquement à un poids plus important des richesses accumulées dans le passé. Mais quoi qu'il en soit, le fait est que l'Amérique a connu un rapport capital-revenu beaucoup plus stable qu'en Europe au cours du siècle écoulé, ce qui peut expliquer pourquoi l'opinion américaine semble entretenir une relation plus apaisée avec le capitalisme.